Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Je reçois dans cet épisode deux chercheurs pour parler des questions de souveraineté autour des logiciels libres. Laure Muselli, qui est maître de conférence en management des systèmes d'information à Télécom Paris, et son collègue Stefano Zacchiroli, professeur au département informatique et réseau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de la mainmise des GAFAM sur les logiciels libres avec Laure, j'aurais aimé, Stefano, que tu nous rappelles ce qu'est l'Internet libre dans sa dimension historique et pourquoi des logiciels libres se sont créés pour contrer la toute-puissance de Microsoft.
Comme contexte historique, il faut savoir que dans la science, les partages de connaissances a été toujours le default. Donc, au début de l'historique de l'informatique, on parle des années 60, c'était normal pour des chercheurs, notamment aux États-Unis, c'est là qu'on faisait beaucoup d'informatique à l'époque, de partager les logiciels. Alors, c'était le default, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas question de rendre impossible de partager du code. Et après, à partir de la fin des années 60, avec ce qu'on appelle le unbundling des IBM, donc je ne rentre pas dans les détails, mais une décision en justice qui a fait en sorte que IBM a dû séparer ses activités des productions des machines et des productions de code. Donc cela a ouvert la porte à l'industrie du logiciel qui s'est affirmée plus tard via l'arrivée des PC et évidemment le fait qu'il y avait beaucoup plus de gens qui pouvaient acheter du logiciel. Avec la création d'une possibilité d'une industrie du logiciel, cela a fait en sorte que les modèles des business qui étaient choisis par les entreprises qui commençaient à créer du logiciel, notamment Microsoft, étaient de dire « on va faire de l'argent en vendant des copies du logiciel ». Donc en gros, on dépense des énergies pour produire du logiciel, et après on va vendre chaque copie différente de ce logiciel avec un coût pour payer la licence. Alors en termes économiques, ça c'est une action, faire une copie d'un logiciel qui a un coût marginal qui est zéro, mais qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc, évidemment, c'est un modèle de business qui est très profitable, et donc ça a créé un intérêt à avoir une alternative à la libre circulation du logiciel. Donc ça c'est un peu les contextes historiques et économiques. Donc tout cela a été créé les conditions pour un mouvement qui proteste contre tout cela, qui est né plus ou moins dans les années 80 sous l'impulsion de Richard Stallman. Et l'observation était que il ne doit pas y avoir des différences de pouvoir entre guillemets entre qui produit les logiciels et qui l'utilise. Donc l'idée qui a été représentée dans Carte à Liberté est que les utilisateurs d'un logiciel doivent toujours pouvoir librement les copier, étudier comment ça marche, les modifier et redistribuer aux autres les résultats de ses propres modifications. Donc si on a ces propriétés-là, on dit qu'un logiciel est un logiciel libre, et ce qui fait la différence entre les logiciels libres et les logiciels qui existaient sur les marchés principalement à l'époque, qui est des logiciels qu'on appelle propriétaires. Et donc, cette idée de mettre sur le même plan les utilisateurs et les producteurs fait en sorte qu'on ne peut pas avoir des privations des libertés quand on met sur le commerce un logiciel. Et ça nous ramène à l'idée de commande numérique que nous avons discuté dans un épisode précédent du podcast.
Là, tu ne nous as pas beaucoup parlé de Microsoft. Mais du coup, quel est son rôle dans cette réaction contre la prise de pouvoir des entreprises du logiciel et pour défendre sa libre circulation?
Donc, tu as raison. Je trouve que c'était un peu les grands représentants du méchant de l'époque, car c'était la plus grande entreprise qui produisait tous les logiciels, qui les vendait sur les marchés, et c'était des logiciels qui n'étaient pas libres. Okay? Mais les mouvements du logiciel libre sont beaucoup plus larges que ça. Donc c'est vrai qu'il était un peu l'ennemi choisi de l'époque, car il était dominant sur les marchés des systèmes d'exploitation, sur les bureautiques, etc. Mais l'objectif du mouvement du logiciel libre, qui est toujours valide aujourd'hui, est de permettre à tout le monde de pouvoir faire tous ses calculs en utilisant exclusivement du logiciel libre. Donc, on est encore loin de là, même si aujourd'hui, la part du marché de Microsoft, au moins sur certains chapitres de logiciels, a baissé énormément. Donc, ça serait une erreur de se concentrer seulement contre Microsoft quand les parts des marchés peuvent baisser, mais l'objectif de libérer les utilisateurs du logiciel de l'injustice entre eux et les producteurs de logiciels est toujours là.
Merci Stefano pour cette mise en perspective historique que nous allons poursuivre avec toi, Laure. Mais d'abord, tu parles d'open source alors qu'on a parlé de libre avec Stefano Zacchiroli. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la différence entre ces deux notions ?
Le libre, en fait, c'est un mouvement contestataire qui faisait face à l'hostilité des grands éditeurs comme Microsoft. Et d'ailleurs, Microsoft n'hésitait pas à dénigrer la fiabilité, la qualité des logiciels libres, à pointer le manque de services disponibles. Donc, en fait, ces logiciels n'étaient absolument pas adoptés par les entreprises, par la sphère commerciale. Et en fait, dans les années 90, le mouvement open source émerge et il se distingue du libre par la dimension commerciale qu'il introduit. Et on a IBM qui, voyant une façon de contrer la domination de Microsoft, commence à soutenir l'open source, à s'y investir, à proposer des services autour de l'open source. Et dès lors que IBM soutient l'open source, bah, les entreprises y vont, les entreprises adoptent les logiciels open source et les logiciels open source s'imposent dans les entreprises, en fait.
Pour revenir à la situation actuelle, tu as contribué avec d'autres chercheurs de Télécom Paris à une étude sur la mainmise de l'open source par les GAFAM et pointé du doigt la façon dont ils ont pris au fil du temps une place de plus en plus importante. Alors, quelle forme ça prend ?
Alors, les GAFAM, ils investissent l'open source de plusieurs façons. D'abord, ils rachètent les plateformes et la plateforme de production de l'open source, qui est GitHub, qui est la première plateforme de collaboration open source et que Microsoft rachète en 2018. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils participent au financement des fondations de type Linux Foundation, qui ont pour but d'organiser la collaboration entre les acteurs industriels et informatiques pour développer des standards techniques ouverts et encourager l'innovation en mutualisant les coûts de développement. Ensuite, ce qu'ils font également, c'est qu'ils initient des projets open source dont ils sont les sponsors et dont ils contrôlent la gouvernance et donc les trajectoires. Donc c'est ce dont Stefano parle souvent, le projet Chromium de Google, qui est open source, mais qui est sponsorisé par Google. Donc Google contrôle les orientations. Et enfin, la quatrième façon de s'investir dans l'open source, et c'est ce qu'on a plus précisément mis en évidence avec mes collègues Fred Paillet, Mathieu O'Neill et Stefano, qui est d'employer des développeurs internes pour contribuer aux projets open source existants ou à des projets open source que les entreprises ont elles-mêmes initiés.
Tu nous dis que les GAFAM ont plusieurs façons de s'investir dans l'open source et qu'il y en a qui sont un peu insidieuses. Alors, quels sont les risques et est-ce que ça impacte seulement l'open source ou est-ce que ça va plus loin ?
Alors, il existe effectivement des risques pour l'open source parce qu'il faut comprendre que voilà, dans une période où le recrutement des talents est une problématique un peu cruciale, les projets open source sont une sorte de job market où les employeurs et les développeurs interagissent. Donc, les entreprises, dont les GAFAM, ont intérêt à être très présents dans les communautés open source pour repérer les talents, leur donner envie de les rejoindre. Et de leur côté, les développeurs savent que participer au projet open source, ça leur permet de se constituer un CV qui est un point d'entrée pour travailler dans ces entreprises-là. Et au cours de ces interactions, les GAFAM, qui s'identifient explicitement comme faisant partie intégrante de la communauté open source, ils véhiculent auprès des développeurs des discours qui transforment peu à peu les valeurs de l'open source. Et ça, c'est quelque chose que nous avons constaté dans les lieux de rassemblement que sont les conférences. Et vis-à-vis des développeurs, l'accent est mis sur l'open source comme un mode de développement efficace et efficient qui permet de développer des logiciels innovants, fiables, au sein de projets qui sont techniquement stimulants pour ceux qui y contribuent. Et l'enjeu consiste à rendre ce mode de développement de plus en plus professionnel. À l'inverse, les discours des GAFAM, ils ont tendance à minimiser l'importance du choix des licences, voire à ringardiser les discours qui s'attachent justement à insister sur les principes du libre. Voilà, les licences deviennent une question secondaire. Or, ce sont ces principes in fine qui garantissent la pérennité du commun et empêchent l'appropriation des logiciels développés collaborativement par un seul acteur. Donc, le risque pour l'open source, c'est que les valeurs et les principes originels soient dilués et que la préservation du commun ne soit plus assurée.
Donc, on voit que les valeurs de l'open source sont transformées. Formellement, on reste libre, mais les objectifs des GAFAM ne sont plus forcément de libérer les utilisateurs. Cela impacte donc les valeurs, mais est-ce qu'il y a aussi des impacts plus structurels et en matière de souveraineté ?
Alors oui, le deuxième risque, ça concerne cette fois l'infrastructure numérique en tant que commun et sa potentielle prise de contrôle par les GAFAM. S'investir dans les projets open source, ça permet aux GAFAM d'orienter stratégiquement la trajectoire technique de l'infrastructure numérique, de la façonner selon un modèle centralisé qui va être adapté à leur business model. Et ces business models, eux, ne reposent pas du tout sur des logiques de commun, voire même vont à l'encontre des principes de partage, d'ouverture et de transparence, qui sont l'apanage du libre et de l'open source.
Pour être sûr de bien comprendre, qu'appelles-tu une infrastructure centralisée ? Et en quoi cela sert-il les business models des GAFAM ? En d'autres termes, comment captent-ils la donnée et se rendent-ils incontournables ?
Alors, en fait, les business models des GAFAM, ils reposent sur une logique de plateforme qui permet la collecte et l'analyse de la donnée. Et l'idée pour eux, c'est d'avoir accès à des quantités de données les plus importantes possibles et à des sources de données les plus variées possibles pour pouvoir les valoriser. Et à partir de ces données, bah, ils vont pouvoir fournir des services tels que de la pub, mais aussi des services liés à la santé, à la circulation automobile, etc. Et donc, pour pouvoir récolter une quantité, une diversité de données suffisantes, leurs plateformes, elles vont être centralisées techniquement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire en sorte qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui s'y connectent et qui passent par leur serveur pour échanger un maximum de données au cours de différents usages, différentes activités. Et en fait, plus l'infrastructure de ces services est centralisée, plus les plateformes suggèrent que l'utilisation est facile pour les utilisateurs. Par exemple, s'identifier via un compte Google ou Facebook pour se connecter à différents services. Mais en revanche, plus l'infrastructure est centralisée, plus elle va être évidemment susceptible d'être contrôlée par ces GAFAM, et au même titre que les informations qui vont y circuler.
Avec tout ça, peut-on dire que l'open source est toujours un commun ?
L'open source, ça repose vraiment sur un truc qui s'appelle le copyleft, qui est une licence qui dit que tu peux faire ça, que tu peux pas faire ça, et c'est ça qui protège le commun, en fait. Et à partir du moment où tu dis que la licence, elle n'est pas importante, et ben en fait, tu dis que le commun, il n'est pas important, parce que tu protèges plus contre l'appropriation. Et ça s'appelle le copyleft. Et en fait, ce copyleft, avec le cloud, il fonctionne plus très bien, d'une part, et d'autre part, vu qu'on dit que la licence n'est plus très importante, bah en fait finalement on en vient à enlever les instruments de protection du commun. On est face à des enjeux de souveraineté parce que contrôler l'infrastructure, bah, ça revient à contrôler la donnée, avec les enjeux en termes de démocratie que ça revêt, mais aussi la possibilité de se positionner au cœur des orientations en matière, par exemple, de santé, de ville intelligente. Et ça, c'était des choses qui faisaient partie des prérogatives publiques et qui deviennent des marchés à conquérir, grâce à la donnée, en fait. Donc, il ne faut pas oublier que les GAFAM sont des entreprises américaines aussi, et qui sont par ailleurs les fournisseurs des services cloud. On peut parler de Google Cloud, AWS, de Microsoft Azure. Et ce sont donc des services qui permettent de stocker et de traiter les données de la quasi-totalité des entreprises françaises et européennes. Et on peut se demander s'il est bien sage de laisser aux GAFAM le contrôle de l'infrastructure numérique et par là même de la donnée.
Mais du coup, aujourd'hui, question cruciale, comment peut-on protéger nos communs numériques de la mainmise des GAFAM ?
La solution, ça consisterait à favoriser une diversité de projets alternatifs à ceux des GAFAM. Parce que pour l'instant, ces projets alternatifs, ils s'amenuisent de plus en plus. Donc, à l'instar des initiatives telles que celle de Matrix, qui est un protocole de communication qui pourrait être alternatif à WhatsApp, de Mastodon, qui est un logiciel de microblogging qui pourrait être alternatif à Twitter, ou encore Nextcloud, qui est un logiciel d'hébergement, de partage et de synchronisation de fichiers. Ces projets open source, ils visent à promouvoir des solutions qui sont, elles, non pas centralisées, mais décentralisées et fédérées. C'est-à-dire qu'elles utilisent des protocoles qui permettent de les faire fonctionner sur les serveurs d'une multitude d'acteurs différents qui peuvent communiquer via des systèmes d'adressage communs. Et de fait, qui peuvent pas être contrôlés par une seule entreprise. Le problème, c'est que un grand nombre de ces projets peinent à trouver des business models qui sont rentables, c'est-à-dire des sources de revenus suffisantes. Parce que contrairement à ce qu'on a tendance à penser, l'open source, ça ne repose pas que sur des bénévoles. Les projets, ils ont besoin de développeurs à temps plein pour développer le cœur des logiciels. On les appelle d'ailleurs les core développeurs. Et sans des revenus suffisants pour payer les développeurs, ces projets alternatifs à ceux des GAFAM, ils ne peuvent pas survivre. Et ce sont en grande partie les GAFAM qui financent le tissu économique open source. Donc, soit ils établissent des partenariats et des collaborations avec des ESN qui sont spécialisés dans l'open source et qui intègrent leurs solutions, soit elles investissent directement dans les projets open source. Et de fait, les GAFAM orientent l'innovation vers des modèles qui leur sont bénéfiques. Et bien sûr, elles écartent les projets qui pourraient prôner une vision alternative, comme une infrastructure plus décentralisée, comme en vidant la culture de l'open source de ses principes fondamentaux. Donc aujourd'hui, on voit que les GAFAM renforcent leur contrôle sur l'infrastructure et par conséquent leur domination du marché de la donnée. Et ils ont investi l'open source qui ne constitue de fait plus le contre-pouvoir qu'il a pu représenter dans les années 2000. Et donc pour des questions de souveraineté, les pouvoirs publics commencent à s'en inquiéter, à la fois au niveau français et européen. Donc on a vu des initiatives comme Gaia-X qui vise à produire un cloud souverain. Mais les pouvoirs publics pourraient également œuvrer en amont, justement en finançant les projets alternatifs open source. Et ça permettrait que les GAFAM ne soient pas les seules sources de revenus vers lesquelles puisse se tourner l'écosystème de l'open source. Ce faisant, il permettrait une plus grande diversité de solutions pour redonner à l'open source son rôle de contre-pouvoir et de préservation d'un commun numérique.
Ouais, ça serait un peu un jeu à trois entre les GAFAM d'un côté, les communautés de l'open source de l'autre, et au milieu l'État qui financerait les projets open source de la même façon qu'il finance les startups.
On aurait les GAFAM, on aurait des communautés open source et des projets open source qui auraient suffisamment d'argent pour faire émerger des projets alternatifs et des utilisateurs qui auraient le choix entre plusieurs types de solutions, des solutions centralisées et des solutions beaucoup moins centralisées et plus respectueuses des données personnelles, par exemple.
On espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre ce que sont les communs logiciels et les menaces pesant sur le libre. On sait que la problématique des données est centrale, mais ce qu'on ne perçoit pas forcément, nous utilisateurs, c'est l'importance de l'infrastructure logicielle. Elle est un peu négligée dans l'affaire, alors qu'en fait elle est centrale. Tout comme d'autres communs numériques d'ailleurs, sur lesquels nous ouvrirons des fenêtres dans de prochains épisodes. À bientôt !